Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, je ne suis pas seule dans ce studio pour prendre soin de vous, pour vous informer à mes côtés bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à la beauté de notre bouche. Qu'on la trouve trop fine, trop pulpeuse ou pas assez justement aujourd'hui, il est possible d'intervenir sans que cela ne fasse trop artificiel bien sûr. Alors pour nous détailler les méthodes de médecine ou de chirurgie esthétique qui peuvent être utilisées au niveau de la bouche, notre invitée ce sera le docteur Aurélie Fabi-Boulard. Elle est chirurgien plasticien et vice-présidente de la SOFCEP, la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens. Ensuite, dans notre chronique, les mots du quotidien, focus sur la narcolepsie. Savez-vous ce qu'est précisément ce trouble du sommeil? Quels sont les symptômes et surtout, comment ça se traite? Le docteur Jimmy Mohamed nous dira tout. Et puis vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle va nous parler des préliminaires.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on va démarrer avec cette question de Florian.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je vais aller voir mes grands-parents qui ont plus de 70 ans pour Noël. Pensez-vous que je doive me faire tester avant d'y aller? C'est vrai que je prends peu de risques, mais je travaille quand même en présentiel, évidemment masqué. Mais je prends tout de même les transports en commun tous les jours. Donc combien de temps avant, sachant que j'y serai le 23? Merci beaucoup.
Alors Jimmy, effectivement, une question que beaucoup de personnes se posent en ce moment. Alors quand on va aller voir ses parents âgés ou un proche fragile pendant les fêtes, est-ce qu'il faut prévoir un test avant? On entend un peu des sons de cloche différents, on va dire.
Alors tout dépend de la situation. Si vous êtes en télétravail en permanence, que vous êtes à la maison, que lorsque vous faites vos courses, vous avez un masque, que à la maison, l'ensemble du foyer pratique exactement la même chose en télétravail, que vous ne voyez personne pendant 10 jours, vous n'avez pas le virus. En revanche, si vous déjeunez avec des collègues, si vous faites parfois des pauses café, parce que je comprends, il faut un peu
se libérer l'esprit. Des entorses aussi peut-être au règlement, règles d'hygiène en tout cas.
Exactement, ouais. S'il y a des enfants à la maison. Alors là, oui, il faut vous faire tester avant d'aller voir des personnes fragiles. Alors, on vous dira qu'officiellement, il ne faut pas vous faire tester, mais d'un autre côté, on est dans une injonction un peu paradoxale. On va dépister massivement au Havre, par exemple, et nous, derrière, on va vous dire, ne vous faites pas tester. Eh bien si, je vous invite à vous faire tester avant les fêtes de Noël et à renouveler l'opération pour le réveillon.
Alors, certains disent que faire un test finalement qui serait négatif les 3 jours avant, ça ne veut pas dire que 3 jours après, on ne sera pas contaminé une nouvelle fois, donc finalement, ça ne servira à rien. Il faut quoi, le faire le jour du départ, alors,
oui,
au plus tard, quoi.
Au dernier moment, ouais. Si vous avez un dîner le 24 au soir, si vous pouvez le 24 au matin aller dans une pharmacie faire un test
c'est
antigénique
mieux, ouais.
Avec un résultat en 10 minutes, c'est encore mieux. Alors, effectivement, Olivier Véran l'a dit, ce n'est pas le totem d'immunité, vous n'êtes pas protégé à 100% car un test peut être faussement négatif et vous pouvez être en période d'incubation. Mais néanmoins, c'est une nouvelle arme qu'on a face au Covid et je pense que ça s'intègre dans les gestes barrières. Donc le test, c'est en plus des masques, de la distance, du lavage de mains et de la prudence qui est de rigueur en cette période.
Très bien. Merci Jimmy. On va passer tout de suite à la deuxième question d'auditeur du jour. Hein. Cette fois, c'est Christophe qui nous a écrit pour nous demander la chose suivante. Je vous lis sa question. J'ai des hémorroïdes, enfin des crises qui reviennent par période et c'est vraiment pénible. Jusque-là, dit-il, je me suis contenté des crèmes préconisées par mon pharmacien. Mais pensez-vous que je devrais consulter? Est-ce que mon médecin pourra me prescrire quelque chose de plus efficace, dit-il, pour que ça ne revienne surtout pas? Jimmy, d'abord, rappelez-nous rapidement ce que sont les hémorroïdes.
Alors, les hémorroïdes, on en parle souvent comme d'une maladie, mais à la base, on a des veines hémorroïdaires qui sont au niveau de l'anus et du rectum, qui servent à la circulation de façon normale. Et dans certaines circonstances, ces veines vont se dilater, être douloureuses et responsables de la crise hémorroïdaire. Mais initialement, les veines hémorroïdaires sont là naturellement et ne font pas mal.
Alors, il dit que les crèmes vendues sans ordonnance en pharmacie, ça ne lui suffit plus. Hein. Donc, est-ce que vous, les médecins, vous avez peut-être quelque chose dans votre besace qui serait plus efficace? Est-ce qu'on consulte d'ailleurs pour une crise d'hémorroïdes?
Oui, évidemment, on consulte et on montre ses fesses au docteur. Souvent, les patients, ils ont honte. Ils ne veulent pas qu'on regarde les hémorroïdes, mais il faut les regarder.
Parce que vous, c'est un motif fréquent de consultation, mais les gens, ils ne veulent pas trop montrer.
Ils n'osent pas
quoi,
montrer leur derrière, mais il ne faut pas avoir honte parce qu'on est là pour ça. Et puis derrière, on authentifie que c'est bien une crise hémorroïdaire parce qu'on a le droit d'avoir autre chose. Un début de cancer, par exemple, peut se manifester par une petite boule que vous sentez et qui peut être une hémorroïde ou autre chose. Et parfois, il y a des complications de l'hémorroïde, c'est-à-dire que celle-ci va être thrombosée, c'est-à-dire que le sang ne va plus circuler, ça forme une forme de caillot. Et la seule façon de le soulager, c'est de faire une petite excision et donc de vider cette hémorroïde pour vous soulager. Donc, on consulte, oui, si ça ne passe pas, et on n'hésite pas à montrer ça au médecin.
Voilà, et une fois que vous avez bien confirmé le diagnostic, le médecin, donc le généraliste, peut évidemment prescrire, j'imagine, des choses plus efficaces peut-être que
exactement, il existe des traitements sur ordonnance. Souvent, on donne une crème avec un quelque chose d'anesthésiant pour calmer la douleur. On prescrit des antidouleurs parce que c'est très douloureux. Et puis souvent, il faut qu'on régularise le transit car une des grandes causes de crise hémorroïdaire, c'est la constipation.
Bah oui.
Et donc, il faut que pendant la période, que les selles soient plutôt liquides. Donc, on va vous soulager.
Pour ramollir un peu les selles.
Exactement. Et puis en attendant que la crise passe. Et puis si ça ne va pas, on peut vous adresser au spécialiste.
J'allais vous dire, le spécialiste, en dernier recours, ça peut même être une solution chirurgicale, je crois.
Oui, il existe des centres, notamment des urgences, où il y a des urgences proctologiques qui peuvent vous prendre en charge. Donc c'est un gastro-entérologue qui est proctologue qui peut faire ça. Et donc il peut faire un traitement chirurgical, soit scléroser les hémorroïdes, soit faire des ligatures avec ou sans anesthésie générale. Parfois, il le fait directement au cabinet pour vous soulager. Et dans ces cas-là, c'est le médecin traitant qui vous adresse.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Christophe, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, place à notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Aurélie Fabi-Boulard qui va tout nous dire sur les techniques esthétiques possibles pour se refaire une beauté au niveau de la bouche, avec un résultat bien sûr le plus naturel possible. Pas question d'avoir une bouche de canard non plus. Restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio notre invité du jour, c'est vous, docteur Aurélie Fabi-Boulard. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes chirurgien plasticien et vice-présidente de la SOFCEP, la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens. Cet après-midi avec vous, on va s'intéresser à la beauté de la bouche. Bouche qu'on ne voit pas trop en ce moment, on va en parler justement, on est tous masqués. Mais est-ce que les demandes de la chirurgie de la bouche, en général et pas forcément dans cette période-là, est-ce que c'est très répandu comme opération plastique, enfin intervention esthétique en tout cas?
Alors la bouche, bien sûr, c'est une des premières demandes dans nos cabinets, autant pour de la médecine que de la chirurgie esthétique. Quelle que soit la génération, des plus jeunes, c'est la première demande des jeunes femmes. Et c'est tout à fait normal, puisque c'est un élément de communication, mais également de séduction. Malgré la période Covid avec les masques, ça reste une demande très forte dans nos cabinets.
Alors, vous avez parlé d'indications médicales et esthétiques, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on fait refaire ses lèvres ?
On refait faire ses lèvres, soit parce qu'on les trouve pas assez pulpeuses, pas assez grandes, pas assez en accord avec un critère esthétique adapté à son visage. On peut également essayer de corriger les dégradations liées à l'âge, les petites ridules autour de la lèvre supérieure, les plis d'amertume qui commencent à se former dès la quarantaine. Et l'affinement des lèvres en général qui peut donner un air amer et triste à une personne.
Et vous disiez, c'est surtout donc la première demande quelque part des jeunes patientes. Je dis patientes, on verra s'il y a des hommes aussi qui y pensent peut-être, mais quand elles sont plus âgées, les femmes, qu'elles ont plutôt 50 ans, elles viennent pas forcément pour les lèvres au départ, hein, c'est ça, c'est plus un truc en plus, non?
Alors, les lèvres, ça reste quand même une demande très importante, quelle que soit la génération. Si les femmes de la cinquantaine sont très demandeuses d'améliorer leurs lèvres, mais elles ne vont pas demander des lèvres pulpeuses ou augmentées de volume. Elles cherchent un résultat extrêmement discret et naturel, mais éliminer les rides autour des lèvres.
Oui, parce que finalement, les lèvres, c'est comme les autres parties de notre corps, ça vieillit, c'est ça? Elles deviennent...
Donc on n'y pense pas. Je pensais que ça restait intact jusqu'à la fin, mais non.
On pense souvent aux seins qui vont s'abîmer, parfois aux rides du visage, mais on oublie que les lèvres aussi peuvent aussi être moins belles, entre guillemets, en vieillissant.
Mais encore plus que le reste du visage, puisque les lèvres, c'est un muscle qu'on utilise pour parler, pour manger, pour... s'exprimer.
Mais c'est vrai qu'on ne fait pas grand-chose avec son front, finalement, mais sa bouche.
Mais on fait beaucoup de choses avec son front, mais on a extrêmement de la mobilisation, et puis la qualité de la peau autour des lèvres est la même que celle du reste du visage, et donc soumis aux mêmes dégradations, aux mêmes influences du soleil, des perturbations, et surtout des facteurs génétiques. Une femme qui aura des rides au niveau du visage aura obligatoirement des rides autour des lèvres à un moment. Bien sûr, ça peut être majoré par le tabac, par certaines mimiques, mais les lèvres sont souvent source, en tout cas, de demandes d'amélioration.
Vous disiez tout à l'heure que donc on peut avoir, il y a plusieurs motifs de consultation quand c'est les lèvres. Ça peut être je veux du plus pulpeux, je veux du moins ridé. Quand vous disiez aussi mieux dessiné, ça veut dire quoi, des lèvres pas très bien dessinées finalement?
Alors, il existe des formes de lèvres. C'est très dessiné selon les ethnies. Les Asiatiques, les Africaines n'ont pas les mêmes lèvres, les Européennes non plus, les Caucasiennes d'Europe de l'Est et du Sud n'ont pas les mêmes lèvres, mais on ne va pas généraliser. Aujourd'hui, les demandes d'amélioration, on sait qu'une jolie lèvre, c'est une lèvre qui est bien définie, bien dessinée. Il y a plusieurs unités anatomiques, notamment l'arc de Cupidon, ce qu'on appelle l'arc de Cupidon, qui est la partie centrale entre les lèvres. Quand c'est bien dessiné, ça attire l'œil. Ouais. Donc, c'est une lèvre qui va être aguicheuse, peut-être pas volontairement, mais en tout cas, c'est féminin et c'est un critère esthétique qu'on utilise beaucoup dans nos corrections.
Donc, ça veut dire qu'on ne vous demande plus tellement les lèvres pulpeuses, ce qui était un peu synonyme de la sensualité il y a quelques années. C'est en baisse, ce genre de mode de demande ?
Alors, pas du tout. En fait, les demandes de lèvres pulpeuses existent toujours. On a même des tranches de population assez jeunes qui sont très demandeurs, souvent stimulées par les réseaux sociaux.
Oui, les télé-réalités. On parlera de cet aspect sociétal plutôt à la fin de l'émission. Mais est-ce que les garçons aussi font, c'est une demande, les lèvres ?
Oui, alors la demande d'amélioration des lèvres chez les hommes existe. Elle est moins forte que l'amélioration du regard, qui est quand même la principale demande de l'homme pour s'améliorer. Mais c'est une demande qui existe.
Qu'est-ce qu'ils veulent les hommes ? Qu'est-ce qu'ils voudraient, Jimmy Mohamed ? S'il vient vous voir pour ses lèvres, on ne voit pas du tout.
Elle
n'a
pas vu mes lèvres, c'est sûr, ça.
Alors, j'imagine qu'il a des lèvres qui doivent être plutôt normales. Parce que, en fait, les lèvres sont proportionnées. Si elles veulent être belles, c'est une histoire de proportion. C'est des nombres d'or qui existent au niveau du visage. Ouais. Et c'est Léonard de Vinci qui a décrit ça. Donc, c'est des proportions de longueur et de hauteur vis-à-vis de la largeur du visage, la hauteur du front. Ouais. C'est une histoire de proportion. Donc, on peut avoir des lèvres fines avec un visage fin, ça sera très élégant. On peut avoir des lèvres très pulpeuses sur un visage très fin, ça va être étonnant. L'idéal, c'est une histoire de proportion et on est très attaché en France, en tout cas dans notre façon de proposer la chirurgie et la médecine esthétique. C'est ce qu'on appelle la French Touch. C'est une façon élégante d'améliorer et d'apporter une réponse.
Mmh. Et docteur Fabi, on calculera ce nombre d'or de Jimmy
oui,
tout à l'heure.
Je ne montrerai pas mes lèvres parce que je sens que je vais être jugé par le chirurgien. J'ai trop honte.
Non, mais on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans son rendez-vous, on vous détaille les interventions esthétiques possibles actuellement au niveau de la bouche. Si vous aimeriez avoir des lèvres plus pulpeuses, plus dessinées, moins ridées, on va tout vous expliquer dans un instant. Alors à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité en studio avec nous, c'est le docteur Aurélie Fabi-Boulard. Vous êtes chirurgien plasticien et vice-présidente de la SOFCEP, la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens. Alors docteur, pour l'harmonie du visage, on travaille forcément, j'imagine, quand on vous fait une demande au niveau des lèvres, toujours les deux ou pas ? Parce que vous parliez du fameux nombre d'or, c'est des calculs très, très précis hein, pour savoir ce qui sera harmonieux sur un visage, en tout cas quand on le fait à la française, on va dire. Toujours les deux lèvres ou parfois on n'en travaille qu'une seule ?
Alors c'est varié, mais c'est vrai que on sait que normalement une lèvre n'a pas les mêmes proportions. La lèvre supérieure est légèrement plus petite que la lèvre supérieure, mais ce n'est pas la réalité chez tout le monde. Certaines personnes ont la lèvre supérieure plus grande. Les belles lèvres, en général, c'est un tiers, deux tiers. Lèvres supérieures, un tiers. Lèvres inférieures, deux tiers.
Bon, vous êtes parfait, Jimmy, je crois. C'est ça,
vos
mensurations.
Je ne montrerai toujours pas mes lèvres au chirurgien. J'ai trop peur qu'elle me dise quelque chose. Alors, on va passer aux différentes techniques dans la chirurgie des lèvres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner du galbe, justement, à ces lèvres ?
Alors, il existe des techniques médicales avec des injections de produits de comblement. Notamment.
C'est quoi, par exemple, qu'on injecte ?
Alors, on injecte de l'acide hyaluronique. Tous les produits non résorbables sont non recommandés. Plusieurs produits ont été utilisés dans les années 80 et ont provoqué des complications. Donc, les produits non résorbables ne sont pas recommandés et peu utilisés.
L'acide hyaluronique, vous allez le piquer dans toutes les lèvres, dans toute la surface de la lèvre, et puis ça va se, avec, je sais pas, ça se commence. En fait, ça sera harmonieux.
Il y a de nombreuses techniques en fonction du désir et de la volonté de rehausser, augmenter le contour, augmenter les volumes. On peut très bien améliorer une lèvre sans la rendre plus volumineuse, juste en redessinant ses contours. Puisque en vieillissant, on perd de l'épaisseur de tissu musculaire, graisseux. Et donc, l'acide hyaluronique est l'élément de référence. C'est un produit qu'on a naturellement dans notre corps.
Mais ce n'est pas définitif hein, comme résultat, par contre.
Non, c'est un traitement qui n'est pas définitif. Ça a l'avantage, au cas où ça ne plaise pas, de retrouver sa lèvre quasiment d'avant. Les autres techniques qui sont quand même utilisées par les chirurgiens plasticiens, c'est la réinjection de sa propre graisse, le lipofilling.
Vous la prenez où, la graisse, pour aller la remettre dans la bouche du coup ?
Alors, on prélève la graisse là où on peut la trouver. Ça peut être dans le ventre, ça peut être au niveau des cuisses.
Oui,
au niveau
c'est deux en un. On perd un peu de tour de taille au passage.
Voilà,
on récupère
c'est
des
une
lèvres,
technique ouais. qui, d'une part, permet de sculpter le corps d'une autre, de la zone où on va la prélever. Et qui permet également d'apporter un résultat qui sera très naturel, bio, puisque c'est son propre tissu, et définitif si les patients gardent un poids stable.
On peut aussi mettre des implants. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça se fait, les implants alors, en silicone ?
Alors, il existe des fils qui peuvent être utilisés pour les lèvres. Ils n'ont pas été très performants et sont peu utilisés en France, beaucoup en Asie. Mais certains fils peuvent être introduits dans la lèvre supérieure, notamment pour marquer l'architecture de la lèvre.
C'est ce qu'on appelle les fils tenseurs, c'est ça ? Ou ça n'a rien
Alors,
à voir, non ?
C'est dans la gamme des fils tenseurs, mais c'est, le but étant de faire de la structuration du rebord de la lèvre supérieure.
On
ne
fait pas beaucoup ça en France, vous dites, pour
c'est
les lèvres.
C'est très peu développé. Ouais.
D'accord, parce qu'on le passe par où, le fil ? Je me dis, il doit y avoir des cicatrices.
On le passe d'une commissure de l'angle de la bouche vers l'autre côté.
Donc ça ne se voit pas trop, quand même.
Ouais. Non, ça se veut, tout de même discret. Et ce sont des fils qui sont censés être résorbables également, en matière qui sont résorbables.
On en a tout petit peu parlé, mais c'est vrai qu'avec cette période, on porte tous un masque. Et du coup, est-ce qu'on prête attention encore aux lèvres ? Est-ce que vous avez encore des patientes à opérer ? Ou est-ce que finalement, tout le monde s'est mis dans une bulle en disant « Bon, bah, mes lèvres, elles sont cachées derrière un masque. C'est comme mon sourire, ça pourra attendre. »
Alors, au contraire, il existe une vraie recrudescence de la prise en charge esthétique du visage, y compris des lèvres, actuellement, dans nos cabinets. Les patientes, quoique masquées quand elles sortent de chez elles, sont souvent chez elles, se regardent beaucoup. Les patientes et les patients, parce que les hommes sont aussi demandeurs. Et les demandes d'amélioration des lèvres ont vraiment le vent en poupe, encore plus dans ces périodes, malgré le port du masque.
On peut faire aussi une sorte de lifting, je crois, des lèvres pour remonter un peu tout ça quand ça s'affaisse justement avec l'âge.
Oui, alors il existe une technique qui a été décrite d'ailleurs par des chirurgiens français initialement et qui sont des techniques très performantes qu'on pourrait comparer au lifting du visage, qui s'appelle le lifting de la lèvre supérieure, qui grâce à une petite cicatrice située à la racine du nez, sous les narines, permet de retirer quelques millimètres de peau. Et on sait pertinemment que le vieillissement de la lèvre supérieure est un allongement, notamment chez les femmes. Et sans augmenter le volume, sans modifier le volume de la lèvre, on peut avoir des résultats extrêmement naturels.
Docteur Fabie Boulard, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
On revient très vite avec cette émission consacrée à la médecine et à la chirurgie esthétique. Et à présent, on va passer à un sujet plus sociétal. On va parler des dérives avec cette augmentation de demandes de plus en plus farfelues venant des jeunes, le plus souvent à cause des réseaux sociaux. Alors comment lutter contre ce phénomène ? A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous. Il nous accompagne cet après-midi, le docteur Jimmy Mohamed, bien sûr, mais c'est surtout le docteur Aurélie Fabie Boulard qui est avec nous. Vous êtes chirurgien plasticien et vice-présidente de la SOFCEP, la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens. Alors, avec vous, à présent, on va parler de problématiques plus sociétales liées à votre spécialité, quand même, à l'esthétique. On parlait de la bouche tout à l'heure. On a fait quand même deux grosses parties sur ces interventions. Et on a l'impression, justement, qu'il se passe quelque chose du côté des jeunes filles, du côté de la bouche, justement, quand on regarde certaines émissions, notamment de télé-réalité, on a l'impression qu'il y a des jeunes filles, là, de 18-20 ans, qui ont des bouches, mais alors énormissimes. On est sur le difforme. Il y a une mode, il y a quelque chose du côté des toutes jeunes filles.
Alors, les réseaux sociaux et les télé-réalités influencent énormément les millénials, hein, ça, c'est une évidence. Ça attire l'œil par la déformation, d'une part. C'est, la bouche étant un élément de séduction évidente, ça peut être attractif.
Mais qui ose leur faire ça? Quel chirurgien, quel médecin ose les mettre dans des états pareils?
Le problème qui se passe, c'est que d'abord, toutes les jeunes femmes ne sont pas attirées par ce modèle, hein, mais celles qui sont attirées par des excès, elles vont consulter plusieurs médecins jusqu'à aboutir, malgré les conseils de prudence qui sont délivrés, à des complications parfois, et parfois même elles recherchent sur Instagram qui injectent, et elles aboutissent dans des cabinets de personnes qui ne sont pas médecins et qui pratiquent de manière complètement illicite des injections avec des risques de complications telles des nécroses et des complications qui ne sont pas toujours réparables.
Alors, est-ce que, puisqu'on a l'impression que c'est de plus en plus fréquent, notamment dans les téléréalités, vous l'avez dit, mais est-ce que ça veut dire que c'est devenu un critère de beauté? Est-ce que nos standards ont changé et qu'il faut se préparer? Est-ce que les jeunes veulent ressembler à ce genre de choses, avec des lèvres disproportionnées, des fesses énormes? Est-ce que s'il faut s'inquiéter?
Oui, à un côté, ils veulent que du gros. Moi, c'est ça que je comprends
non.
pas.
Non, alors, c'est pas du tout... il existe, bien sûr, une tranche de personnes qui sont très attirées par ce côté très superficiel, superlatif, de tous les critères érotiques que peuvent avoir les hommes et les femmes. Cependant, ce n'est pas le repère de toute la jeunesse. Certains ont plus la curiosité de le regarder.
Oui, parce que les ados regardent ces choses-là, donc
bien
c'est
sûr,
inquiétant.
Ils
hein,
le regardent comme c'est des paillettes, c'est quelque chose de
Vous disiez
de
même, hein, des ados, vous en connaissez, qui disent qu'on les regarde comme des animaux de foire, en fait,
voilà,
ces jeunes-là.
Ouais. C'est tout à fait pris comme étonnant, surprenant, et bien sûr, tout ce qui fait un peu sensation est attractif. Le problème, c'est quand même toutes ces jeunes femmes qui nous font des demandes excessives. On passe beaucoup de temps à leur expliquer que c'est dangereux, qu'il ne faut pas le faire. Un certain nombre d'elles, sans dire qu'elles ont déjà eu recours à des injections, vont continuer et parfois dépassent... Les conditions de sécurité nécessaires pour que l'acte aboutisse à un résultat normal et sûr.
Et ça veut dire qu'en plus de cela, elles ne sont pas satisfaites des résultats, elles en veulent toujours plus et elles rentrent dans une forme de cercle vicieux?
Oui, on a ce genre, mais ça a toujours existé, les gens insatisfaits de leur personne malgré les actes les plus prodigieux et les plus techniques.
Oui, ça, c'est pas d'aujourd'hui.
On a toujours eu des patients qui étaient mal. Ça relève plus de la psychiatrie, de l'analyse psychologique profonde. Là où je veux surtout mettre en alerte, c'est l'information qui est libre sur Instagram et qui permet à certaines patientes jeunes, peut-être moins méfiantes, d'aboutir à des possibilités d'injection qui sont d'une part proposées à un moindre coût, puisque ce ne sont pas des médecins, ce sont des injecteurs illicites, c'est hors la loi.
Ils peuvent aller en prison, ces gens, si on les dénonce, il faut porter plainte contre ces gens, si on arrive à les identifier.
Bien
encore,
sûr, ouais. Mais ce sont des gens qui disparaissent aussi vite, puisqu'ils n'ont aucune autorisation d'exercer un métier qui relève de la médecine, donc ils ne sont pas médecins. Et souvent, ce sont des personnes qui laissent dans le désarroi total une personne qui présente un problème, qui va ensuite consulter un médecin et qui essaie de trouver une solution qui est parfois extrêmement difficile.
Vous avez parlé de la télé-réalité, d'Instagram. Est-ce qu'il y a la génération aussi Snapchat où on demande du coup des choses un peu différentes, et que c'est dû à... Est-ce que ce réseau a une influence sur les demandes des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui viennent vous voir?
Alors, ça fait plusieurs années qu'on me pose ce sujet. Les jeunes, les très jeunes, là on est plutôt...
12, 13...
Voilà, les tout jeunes adorent Snapchat.
Et les
parce
filtres,
que pour
hein,
eux, qui... ouais. Ce sont des fils qui sont entre le dessin animé et la réalité. Ils aiment beaucoup. Cependant, on n'a pas de demande dans nos cabinets de patientes avec
des yeux
de chat,
on ne vous demande pas des choses comme
c'est
ça.
Un jeu, c'est un jeu d'identification et ça touche plutôt les très jeunes.
D'accord. Mais pas de,
par contre,
de problème.
Les jeunes femmes 18-23 ans qui nous demandent des injections des lèvres avec des modèles, les trouvent bien souvent sur Instagram.
Docteur Fabie Boulard, on va s'arrêter là. Merci de nous avoir accompagnés cet après-midi. Merci pour cet éclairage sur les techniques esthétiques, surtout donc au niveau de la bouche, mais aussi ce point sur les dérives parfois de la génération Snapchat. Merci.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien focus sur la narcolepsie. Savez-vous ce qu'est précisément ce trouble du sommeil? Quels sont les symptômes et surtout comment ça se traite? Le docteur Jimmy Mohamed fera le point. À tout de suite.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi. Alors à présent, on va passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et pour amorcer cette chronique, on a cette question qui nous a été posée par Jean-Louis qui a appelé de Rouen. On l'écoute.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. La narcolepsie, je voudrais savoir ce que c'est. Je crois qu'il y a des vaccins qui peuvent provoquer ça. Lesquels? Et est-ce que ça touche une population en particulier? Est-ce qu'il y a un remède? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Merci.
Jimmy, on va commencer peut-être par un petit rappel. La narcolepsie, finalement, c'est quoi?
Alors, la narcolepsie, c'est une pathologie du sommeil qui va associer en journée de la somnolence avec des accès involontaires de sommeil qui vont être irrésistibles. Et puis une deuxième chose qui est souvent très impressionnante.
Irrésistible, pas dans le sens c'est délicieux, c'est agréable, c'est qu'on peut pas, ne pas y succomber.
Exactement, c'est irrépressible, on ne peut strictement rien faire.
Ouais.
Et puis une deuxième chose qu'on appelle la cataplexie. La cataplexie, c'est tout d'un coup, vous allez avoir une perte du tonus au niveau de la tête, tout d'un coup, comme si vous alliez vous endormir. Et c'est déclenché par des émotions souvent positives. Les personnes sont en train de rire, de regarder un dessin animé, par exemple, pour les enfants, et tout d'un coup, paf, ils tombent dans une forme de cataplexie, mais ils sont toujours conscients.
D'accord.
Ils ne perdent pas connaissance.
Il est là, la personne est consciente quand
exactement.
Même.
Ouais. Ça dure de quelques secondes jusqu'à 2 minutes. Et puis, on a d'autres choses qui vont être associées. On va avoir ce qu'on appelle
Vous avez un problème, Jimmy?
Ben,
ça va?
Du coup, c'est moi qui ai un trou de mémoire. Des hallucinations, j'ai une cataplexie. Quelques hallucinations. Et puis, ce qu'on appelle aussi des paralysies du sommeil. Tout d'un coup, les gens s'endorment et ils ont l'impression d'être paralysés. Ils ne peuvent pas se réveiller. Donc, c'est plusieurs troubles du sommeil, mais qui vont se manifester souvent en journée.
C'est quoi la cause de cette pathologie? Enfin, il y en a peut-être plusieurs, d'ailleurs.
On ne connaît pas bien la cause. Ouais. On sait que dans le cerveau, vous avez des hormones, notamment l'orexine, qui sert à réguler la veille et le sommeil. Et cette orexine serait déficitaire chez les gens qui ont la narcolepsie. Il y aurait une part génétique, puisqu'on s'est rendu compte qu'on arrive à en mettre en évidence certaines particularités. Et il y aurait peut-être un facteur déclenchant, notamment certaines infections. Et la narcolepsie arrive plus souvent par période. Certaines périodes, notamment en été, on en voit un peu plus.
Ah oui.
Comme si une infection virale saisonnière pourrait déclencher la maladie. Mais à ce stade, on n'a pas de vraie cause reconnue.
Est-ce que ça arrive qu'à des adultes ou c'est une maladie qui peut toucher l'enfant aussi?
Alors ça touche plutôt l'adulte, mais le mode de découvert, c'est plutôt chez l'enfant et l'adolescent. Donc ça peut exister chez l'enfant et c'est sous-diagnostiqué chez l'enfant. Je tiens à vous rassurer, c'est 0,05%.
Oui, j'allais vous dire, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très fréquent.
De la population, donc ça reste relativement rare, même s'il faut simplement se méfier chez l'enfant. On le diagnostique chez un petit garçon, par exemple, ou une petite fille, puisque ça touche autant les garçons et les filles, qui vont dormir beaucoup plus que d'habitude, avec un sommeil non réparateur, et qui vont se remettre à faire la sieste. Si un enfant, après 6 ans, se remet à dormir
c'est
l'après-midi,
pas normal.
C'est qu'il a quelque chose. Ce n'est pas forcément de la narcolepsie.
Après 6 ans, il n'y a plus besoin de sieste.
Il n'y a plus besoin de sieste. Ça peut être soit une dette de sommeil ou une autre pathologie qu'il conviendra d'explorer.
Rapidement, alors je ne sais pas s'il y a un traitement très efficace. Est-ce qu'on peut guérir complètement? Ça se traite de quelle façon?
Alors plusieurs choses. C'est qu'on sait qu'en plus, j'avais dit que ça parlait d'un déficit en orexine, une hormone, et ça va avoir un impact sur le surpoids. C'est dans des enfants ou des adultes qui vont être en situation d'obésité.
D'accord.
Qui vont avoir en plus un diabète. Et chez les enfants, ils vont avoir une puberté précoce ou même une puberté qui va être accélérée avec une croissance qui va arriver très vite. Alors, on ne traite pas la maladie de façon définitive, c'est une maladie chronique et elle est quasiment incurable. En revanche, les traitements peuvent aider à améliorer la qualité de vie. On va diminuer la somnolence en journée, diminuer la cataplexie dont je vous ai parlé, et puis de prendre en charge toutes les comorbidités qui vont associer le diabète, la prise de poids ou certains troubles anxieux qu'on peut avoir.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, vous le savez, c'est la chronique sexo de Catherine Blanc. Alors à tout de suite.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h pour cette dernière séquence de l'émission. Nous sommes rejoints tout de suite en studio par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors Catherine, aujourd'hui, on a une question qui nous a été laissée sur notre répondeur, le 3921. Vous allez entendre, c'est la question de Martin.
Bonjour Catherine, j'ai une question un peu embarrassante. Ma copine me fait régulièrement des fellations et je dois avouer qu'elle doit s'y prendre très mal parce que c'est limite douloureux, je pense qu'elle doit mettre les dents. Comment je peux lui dire sans la vexer? Merci beaucoup.
Jimmy, je vous vois ricaner, petit canaillou.
Alors,
Catherine, qu'est-ce qu'on peut dire à Martin? À la base, c'est censé être quelque chose d'agréable, ce genre de préliminaire. Donc, ça peut être. Je pensais même pas que c'était possible que ça a l'air de lui faire mal. Il a l'air de souffrir, ce pauvre garçon.
Ouais, je souffrir. Peut-être pas. En tout cas, c'est pas les délices qui manifestement il attend, et on peut comprendre que ça soit quand même une question du coup. Et c'est à se demander pourquoi d'ailleurs on subit quelque chose que l'on n'aime pas,
oui,
parce que c'est vrai aussi.
Plus.
Mais surtout que c'est vrai, on le dit, on a cesse de le dire pour les femmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas à les brusquer, les violenter de quelque manière que ce soit, même au nom du désir de l'autre. Pourquoi ça serait dans l'autre sens possible? Si une violation n'est pas agréable, surtout que si ça n'est pas agréable pour lui, rappelons quand même que pour une femme, ça n'a d'excitant que le fait d'exciter. Si on n'excite pas, ça n'a aucun intérêt, parce que la bouche, elle ne dit pas « Ouh, super, orgasme, bruissance, etc. » Non, rien de tout ça. Donc, autant ou éviter l'exercice ou dire « Ma chérie, ce n'est pas un sandwich. » Si effectivement,
elle y va un peu, ce n'est pas un sandwich.
Ce n'est pas un sandwich, mais du coup, il dit que ça fait mal. Donc, ça vient d'un problème de dents. Est-ce qu'elle devrait consulter le dentiste, par exemple? Est-ce que ça viendrait d'un problème orthodontique? Et du coup,
non, je pense qu'elle n'a pas la technique.
Alors, évidemment, il est difficile de voir quelle est la part de l'anxiété à l'origine de ça, et peut-être l'angoisse de castration qui n'a strictement rien à voir avec les dents de la dame.
Il n'a pas parlé de déformation dentaire. Je crois qu'elle a tout ce qu'il faut.
Voilà, donc je ne pense pas que ce soit de ce côté-là. Je pense qu'elle est peut-être maladroite. Si vraiment il y a une douleur effective, elle est peut-être maladroite. Qu'elle soit... C'est ça qui est compliqué. Est-ce que elle est maladroite? Est-ce que lui est anxieux à l'idée des fellations? Et un peu de maladresse et beaucoup d'anxiété ou un peu d'anxiété, ça fait tout de suite quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc le mieux est de dire à sa compagne avec humour. C'est pour ça que je disais c'est pas un sandwich.
C'est pas un sandwich.
Voilà, c'est une façon de plaisanter. Alors elle sera peut-être un peu vexée, mais encore une fois, on est vexé que quand on laisse trop longtemps les choses et qu'on se dit mais tout ce temps avant de me dire, c'est et ça. Donc je faisais tout n'importe comment, ou on est vexé parce que la relation est toute neuve. Donc effectivement, il faut dire j'aime plutôt comme ça, plutôt que comme ça, plutôt que de dire tu fais mal. C'est, tu sais, moi ce qui m'excite particulièrement, et indiquer ce qui excite, que ça soit plus doux, que ça soit...
Jimmy, vous voulez intervenir, je vous vois.
Non, mais c'est vrai que l'analogie du sandwich est très parlante, mais ce qu'on devrait lui dire, c'est plutôt un bâton d'esquimaux et que lui donner d'autres choses pour la guider.
Prends-le plutôt comme une glace.
On croque pas dans la glace.
Voilà, c'est ça. On peut se dire.
Jimmy donne des conseils culinaires une fois de plus.
Et si aujourd'hui, effectivement, on considérait que mon sexe était, en effet, comment tu mangerais tel truc ou tel autre truc?
Un Mr. Freeze.
Voilà. On peut peut-être, mais je crois que de toute façon, vous arrêtez de rire comme des baleines tous les deux.
Oui.
Je crois que de toute façon, la sexualité doit rester drôle, elle doit rester joyeuse. C'est pas une évaluation de nos compétences dans l'absolu. C'est ponctuellement, on peut être maladroit et c'est pas grave. Et donc effectivement, on peut s'amuser. Vous avez raison, Jimmy. On peut s'amuser des conseils culinaires en disant de maintenant,
mieux
on
lui dise à quel moment est-ce qu'il la laisse retenter, lui faire une énième tentative qui va être peut-être encore ratée. Et à ce moment-là, lui dit ouh là là, où est-ce que c'est un sujet abordé? Bon, en rentrant du travail le soir, est-ce que vous avez un conseil sur le bon timing, on va dire?
Moi, je trouve toujours que parler de sexualité en dehors de la sexualité, c'est le meilleur moyen d'en parler justement entre la poire et le fromage. Parce que tout d'un coup, on se dit...
Donc il faut qu'il mette son sandwich en danger de nouveau pour finalement intervenir sur la question.
C'est-à-dire que, non, mais on peut se dire, tu sais, je repensais à la dernière fois, tu m'as fait une fellation. Alors, j'adore l'idée des fellations. Mais il y a l'idée et puis il y a
Elle va se vexer, c'est sûr.
Mais non! Ah, parce que vous vexeriez.
Bah, je sais pas, non. Il me craint, lui.
Mais tout le monde a envie d'apprendre et de savoir bien faire. Et
oui,
tout le monde a envie d'être
source générale. J'ai l'impression que c'est difficile d'une façon générale d'aborder la sexualité dans un couple sans que ça tombe pour un reproche.
Ouais, ouais.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de critique constructive. Ça va être simplement une reproche et ça va être blessant peut-être par...
Alors, il craint de la vexer, il le dit. Donc,
je pense que ça, c'est parce qu'on se met beaucoup trop à l'épreuve personnellement dans une histoire qui devrait être assez anecdotique. Ce n'est pas une évaluation, la sexualité n'est pas une évaluation de nous. C'est une expérience, il y a des fois merveilleuses et des fois pas. Donc on peut se dire dans un couple, surtout quand on est un couple, c'est pas comme quand on vient de se rencontrer et que c'est le premier soir et qu'on se dit, oh là là, il faut que je sois à la hauteur. Mais on peut se dire, bon, alors, il y a un truc que tu fais que j'adore, mais... peut-être pas comme ça.
Que j'adore, où... c'est déjà mentir, parce qu'il
non, adore.
Pas,
il adore les fellations. Non, mais il adore
oui,
les fellations.
Sur le concept, on va
voilà.
dire.
D'accord. Mais peut-être pas, peut-être plus comme ça, où ça m'exciterait terriblement que tu le fasses.
Moi, je crois qu'elle va se vexer, mais bon, c'est pas grave.
Mais non, mais vous êtes incroyable, arrêtez de dire ça. Mais pourquoi faudrait-il se vexer? Non, non, non. N'écoutez pas ce que dit Mélanie, ni
non,
ce que dit Jimmy aujourd'hui.
Que
n'écoutez
Catherine
pas.
Blanc, et bien évidemment, je ne connais absolument rien. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr.
Mais vous vous vexez, c'est ça votre truc.
Bon, arrêtons cette chronique pour aujourd'hui. Tout de suite, il faut absolument retrouver Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour, bonjour Mélanie. Il était une fois, Stéphane, des auteurs pour petits et pour grands aussi.
Mais oui, on va parler des contes de fées. Ceux de Charles Perrault, mais qui était-il vraiment? La comtesse de Ségur, également, qui n'avait pas une vie aussi drôle qu'on peut l'imaginer. Et vous, de qui allez-vous nous parler?
L'idole de votre jeunesse, Stéphane. Martine. Mmh. Martine en vacances. Martine chez le boucher. Plage. Martine à la plage. Et puis, Martine qui a été un peu revisitée ces dernières années. Ça, c'est les versions que connaît Mélanie, ça.
N'importe quoi. Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une excellente émission. On sera à l'écoute, bien sûr, et vous aussi, restez sur Europe 1.